Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en langue française diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme augmente les efforts de la gestion du terrorisme. Hong Kong et Indonésie augmentent la coopération de l'immigration. Le ministère des Affaires étrangères affirme que l'ASEAN a toujours l'opinion unanime à propos de la mer de Chine méridionale. L'industrie de l'huile de poisson est potentielle d'être développée en Indonésie. Le ministère indonésien des Affaires étrangères invite les entrepreneurs indonésiens à utiliser le groupe de travail de la diplomatie économique. Le commerce avec l'Indonésie remarquable, promo à Budapest. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le chef de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, ou BNPT, M. Tito Karnavian a déclaré que le défi du terrorisme et le radicalisme pro-violence se produisent encore en Indonésie. En outre, le développement de nouveaux réseaux soutenant l'État islamique de l'Irak et de Syrie, ou ISIS, au niveau mondial, ainsi que le développement de l'utilisation de la technologie de l'information, font des efforts de détection plus difficiles. À cette fin, à la séance de travail de la Commission 3 du Parlement, jeudi à Jakarta, Tito a déclaré que BNPT continuera à faire des efforts difficiles à surmonter la question dans le domaine de l'application de la loi contre les actes criminels de terrorisme. Ces efforts couvrent l'augmentation de la détection du renseignement ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes d'application de la loi pour être en mesure de fonctionner dans tous les terrains.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan.
Nous devons accroître les efforts de l'augmentation des capacités en matière de détection intelligence. L'enquête sur le lieu du crime, y compris la fourniture d'outils pour l'application des lois et le support informatique. La coordination avec les pays partenaires sous la forme de partage d'informations et le renforcement des capacités, la coordination entre les enquêteurs, les procureurs et le système judiciaire, la protection des témoins, des victimes et des agences, ainsi que l'augmentation des capacités des agences de la lutte contre le terreur pour être en mesure de fonctionner dans tous les terrains, y compris la forêt et la montagne. Alors, en termes de lutte contre le terrorisme de manière plus subtile, le chef de BNPT, Tito Karnavian, a déclaré que le gouvernement continuait d'encourager les efforts visant à lutter contre la radicalisation et la contre-idéologie. Cela a été fait contre les prisonniers de terrorisme, les familles des prisonniers et des détenus après avoir purgé sa peine. En outre, le gouvernement procédera également à l'effort de gestion des médias pour détecter les communications entre les terroristes et identifier la propagation de l'idéologie radicale. Hong Kong et l'Indonésie ont convenu d'intensifier la coopération dans les domaines de l'immigration et de l'emploi. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une rencontre avec le ministre de la Sécurité de Hong Kong, Lai Tung Kwok, jeudi, a affirmé que la coopération entre les deux pays dans ces domaines était une partie importante des relations entre les deux parties. Le communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères a informé vendredi que Hong Kong avait bien accepté la proposition de Mme Retno Marsudi pour établir la coopération plus étroite dans le domaine de l'immigration à travers la mise en place d'un protocole d'entente entre les organismes compétents. Actuellement, il y a environ 168 000 travailleurs indonésiens à Hong Kong et c'est la deuxième plus grande quantité après la main d'œuvre philippine. Dans une rencontre avec Lai Tung Kwok, la ministre Retno Marsudi a expliqué sur certains cas juridiques qui sont subis par des citoyens indonésiens liés à la mise en œuvre de l'information des systèmes de gestion de l'immigration. Répondant à cette question, Lai Tung Kwok a déclaré que les relations bilatérales solides devenaient la capitale importante pour discuter plus détaillé cette question, afin de trouver la meilleure solution pour les deux parties. À cette réunion, les deux ministres ont convenu l'intensification de la coopération entre le consulat général de l'Indonésie à Hong Kong avec le bureau de l'immigration de Hong Kong à travers la mise en place de groupes de travail pour résoudre diverses questions rencontrées par les ressortissants indonésiens à Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré que l'opinion de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN sont toujours arrondies liées à la mer de Chine méridionale et il est prouvé par la déclaration étant présentée. L'ASEAN possède toujours la déclaration commune pour la question de la mer de Chine méridionale. S'il n'y a pas de l'unanimité, nous ne pouvons pas publier une déclaration à Suniland, Lao et Sotsi, a déclaré Armanata Nasir jeudi à Jakarta. Concernant les plaintes liées aux Philippines, à la Cour d'arbitrage international sur 9 littoraux entre les îles qui sont revendiquées par la Chine, Armanata a dit que l'Indonésie verrait jusqu'à ce que les résultats sortent. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie Kadin de l'Indonésie, chargé de la mer et de la pêche, M. Yogi Prayanto, a affirmé que l'industrie de l'huile de poisson à l'avenir était assez potentielle d'être développée. De plus, il y a une tendance de changement des habitudes de consommation des aliments transformés sains dans la communauté mondiale. Yogi Prayanto, comme cité de Republika, jeudi a ajouté que le gouvernement devait veiller au règlement à partir de la commodité de la banque et un approvisionnement suffisant en matières premières. Si le gouvernement a l'objectif de développer l'industrie de l'huile de poisson, le règlement doit être bien préparé afin que les produits indonésiens puissent être compétitifs avec d'autres pays. Le ministère indonésien des Affaires étrangères invite les entrepreneurs indonésiens, notamment ceux qui sont situés en dehors de Java, d'utiliser le groupe de travail de la diplomatie économique et des représentants indonésiens à l'étranger pour développer une entreprise et commercialiser des produits à l'étranger. Cela a été déclaré par le chef du groupe de travail de la diplomatie économique dans le domaine de l'investissement, Nur Syahrir Rahajo, jeudi à Jakarta. Jusqu'à présent, selon lui, il y a déjà 22 entreprises de Java West, Java East, Java Central et Jakarta qui demandent l'aide des représentants indonésiens à l'étranger de promouvoir ses produits à l'étranger. Il y a 132 représentants indonésiens à l'étranger qui peuvent être utilisés pour faire du marketing. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a expliqué que ce groupe de travail a été créé au début de 2015 pour répondre et soutenir la réalisation de la cible des paquets économiques nationaux qui ont été déterminés par le président Joko Widodo. En outre, il vise également à augmenter la valeur des exportations d'une valeur de 11%, augmenter les arrivées de touristes en Indonésie de 20 millions de personnes et d'accroître l'investissement de 15% jusqu'en 2019. Le ministère du Commerce, à travers le Centre de la promotion du commerce de Budapest, la Hongrie intensifie la promotion du commerce dans la région de l'Europe centrale et orientale par des annonces dans le tram ou des transports en commun. Le chef du Centre indonésien de la promotion du commerce, ou ITPC, à Budapest, dans un communiqué de presse jeudi, a espéré que, via l'annonce, le nom de l'Indonésie est non seulement de plus en plus connu, les produits indonésiens de plus en plus à venir à Budapest et l'Europe centrale et orientale. Selon Hikmat Riyadi, l'annonce est une campagne médiatique très efficace pour introduire l'Indonésie à l'Europe. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Cinquième longtemps pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « La proposition de Trump à interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis ». L'élection générale aux États-Unis qui aura lieu le novembre a attiré de plus en plus d'attention. Presque certainement, les deux candidats, Donald Trump de Parti républicain et Hillary Clinton de Parti démocratique, seront en compétition pour gagner le cœur des Américains dans l'élection ultérieure. Comme un grand pays qui a une forte influence sur la scène politique et le développement économique mondial, un certain nombre de questions qui se posent dans le préélectoral attirent l'attention des gens. Beaucoup d'opinions et de commentaires qui ont émergé au cours de la campagne est devenu la discussion chaude dans de nombreux pays. L'un d'eux est le président Barack Obama qui a commenté la proposition du candidat présidentiel républicain Donald Trump. Le président Barack Obama a condamné mardi Donald Trump sur sa proposition d'interdire les citoyens musulmans d'entrer au territoire américain. Selon le président Obama, la proposition de Trump va trahir l'héritage de pluralisme de la race, l'ethnie et la religion en Amérique et il n'est pas l'Amérique désirée. Au cours de sa récente campagne, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises sa proposition, à savoir empêcher les musulmans qui sont nés à l'étranger à venir aux États-Unis dans le but d'éviter la possibilité d'une attaque terroriste. Trump a également critiqué le fait que la politique du président Barack Obama, qu'il pensait aura pu déclencher une influence sur le raid de la boîte de nuit de gays à Orlando en Floride le dimanche matin 12 juin, qui a tué 49 personnes et blessé 53 autres. Comme l'a signalé, l'attaque a été menée par un musulman américain. Les autorités compétentes soupçonnent que l'action a été encouragée par la propagande djihadiste sur l'Internet. Concernant la proposition de Trump pour interdire les musulmans à venir aux États-Unis, l'Indonésie doit bien comprendre que l'opinion du président Barack Obama est tout à fait acceptable. Non pas parce que l'Indonésie est en paix avec une population à majorité musulmane, mais faire la généralisation préjudice des musulmans n'est pas exact. Être vigilant est nécessaire et superviser le mouvement de personnes soupçonnées d'être affiliées au radicalisme est également important. Mais l'interdiction à tous les musulmans de partout avec n'importe quel fond d'entrer en paix n'est pas exact du tout. Pour les États-Unis, comme l'a dit le président Barack Obama, une telle action serait contraire à la confiance qui était en vigueur depuis longtemps aux États-Unis à propos de l'ouverture et de la primauté du droit. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.iv.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition 17 juin. On va commencer le 17 juin 1944, l'Islande indépendante. Le jour du 133e anniversaire de la naissance de John Sigurdsson, le chef du mouvement pacifiste islandais, la République d'Islande est proclamée à Thingvellir. Jusqu'à là, l'Islande appartenait au royaume du Danemark. Le 17 juin deviendra fête nationale en Islande. Ce nouveau statut lui permettra par ailleurs de bénéficier du plan Marshall et de rejoindre l'OTAN en 1949. On continue le 17 juin 1972 à faire du Watergate. La police surprend dans le meuble du siège du Parti démocrate, le Watergate, à Washington, 5 espions en train de poser des micros. Les journalistes Woodward et Bernstein du Washington Post démontreront, grâce à un mystérieux informateur, que ces individus opéraient pour le président républicain Richard Nixon, alors en pleine campagne électorale. Réélu, Nixon niera toute l'implication dans cette affaire afin de se rétracter suite à une enquête conduite par le Sénat. Une procédure d'empêchement sera engagée contre lui et il démissionnera en août 1974. On termine le 17 juin 1950, la chirurgie de transplantation rénale a été réalisée première fois à Chicago, les États-Unis. La transplantation rénale a été faite première fois à Chicago, les États-Unis, le 17 juin 1950 à un patient Ruth Tucker, 44 ans. La transplantation rénale se heurte encore à de nombreux obstacles en raison du rejet par le patient du corps. Alors que d'autres transplantations réalisées en 1954 à Boston, les États-Unis et à Paris, la France, et avaient succès à cause du corps du patient ne prend pas de mesures pour régler. La transplantation rénale est une thérapie de remplacement rénal qui implique des greffes du rein de vie ou de mort pour les nécessiteux. La transplantation rénale est devenue le traitement de choix pour la plupart des patients souffrant d'insuffisance rénale et d'insuffisance rénale au stade terminal. Transplantation rénale est une option pour améliorer la qualité de vie du patient. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres d'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis du Quatre Coins du Monde, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point. Et pour le titre, le gouvernement a annulé 3143 réglementations locales problématiques. Le gouvernement a annulé 3143 réglementations locales problématiques, à savoir empêcher la capacité nationale, empêcher la rapidité pour gagner la compétition et en contradiction avec l'esprit de la diversité et de l'unité. L'annulation des réglementations locales problématiques a été projetée depuis longtemps par le gouvernement central. C'est une partie du plan du président Joko Widodo pour supprimer les obstacles d'investissement dans la région qui plus tard déterminera le rang de la facilité d'affaires de l'Indonésie. Le président Joko Widodo, lors de la conférence de presse au Palais Merdeka Jakarta lundi, a affirmé qu'il y avait 4 critères de réglementation locale problématique annulés, à savoir la réglementation locale problématique qui empêche la croissance économique locale et prolongera la bureaucratie, la réglementation locale problématique qui empêche le processus de l'autorisation et d'investissement, la troisième, la réglementation locale problématique qui empêche la facilité d'affaires et enfin, la réglementation qui est en contradiction les législations supérieures. Le président Joko Widodo a souligné que l'annulation est de rendre l'Indonésie comme une grande nation tolérante et qui a la compétitivité. Pendant ce temps, le ministre des Affaires intérieures, Cahyo Kumolo, comme cité par le quotidien Tempo, a affirmé que 3143 réglementations locales problématiques qui ont été annulées ont empêché l'investissement et la croissance économique locale. Il a affirmé que ces réglementations locales problématiques annulées étaient incluses les rétributions inutiles, y compris les licences qui utilisent encore les règlements de l'époque coloniale néerlandaise. Il a ajouté que le gouvernement continuera de contrôler les réglementations locales problématiques ou qui sont potentielles d'être problématiques. Il a affirmé que les règlements qui ont été annulés ne devraient pas être ravivés. Cahyo Kumolo a affirmé que l'annulation de ces règlements locaux n'était pas la dernière. À l'avenir, le ministère procédera à une autre politique similaire. Comme par exemple, il y a environ 9000 réglementations locales régissant les investissements et une bonne administration. De ce nombre, il y avait environ 6000 réglementations problématiques. Par conséquent, la suppression de 3144 réglementations annoncées par le président Joko Widodo n'est pas la dernière politique, mais est l'étape initiale. En plus des règlements concernant les questions économiques, Cahyo Kumolo prévoit également de supprimer les règlements relatifs aux frais administratifs des documents facturés au public. Serviteurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le chef de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, ou BNPT, M. Tito Karnavian, a déclaré que le défi du terrorisme et le radicalisme pro-violence se produisent encore en Indonésie. En outre, le développement de nouveaux réseaux soutenant l'État islamique de l'Irak et de Syrie, ou ISIS, au niveau mondial, ainsi que le développement de l'utilisation de la technologie de l'information font des efforts de détection plus difficiles. À cette fin, à la séance de travail de la Commission 3 du Parlement, jeudi à Jakarta, Tito a déclaré que BNPT continuera à faire des efforts difficiles à surmonter la question dans le domaine de l'application de la loi contre les actes criminels de terrorisme. Ces efforts couvrent l'augmentation de la détection du renseignement ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes d'application de la loi pour être en mesure de fonctionner dans tous les terrains.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan.
Nous devons accroître les efforts de l'augmentation des capacités en matière de détection intelligence. L'enquête sur le lieu de crime, y compris la fourniture d'outils pour l'application des lois et le support informatique, la coordination avec les pays partenaires sous la forme de partage d'informations et le renforcement des capacités, la coordination entre les enquêteurs, les procureurs et le système judiciaire, la protection des témoins, des victimes et des agences, ainsi que l'augmentation des capacités des agences de la lutte contre le terreur pour être en mesure de fonctionner dans tous les terrains, y compris la forêt et la montagne. Alors, en termes de lutte contre le terrorisme de manière plus subtile, le chef de BNPT, Tito Karnavian, a déclaré que le gouvernement continuait d'encourager les efforts visant à lutter contre la radicalisation et la contre-idéologie. Cela a été fait contre les prisonniers de terrorisme. les familles des prisonniers et des détenus après avoir purgé sa peine. En outre, le gouvernement procédera également à l'effort de gestion des médias pour détecter les communications entre les terroristes et identifier la propagation de l'idéologie radicale. Hong Kong et l'Indonésie ont convenu d'intensifier la coopération dans le domaine de l'immigration et de l'emploi. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une rencontre avec le ministre de la Sécurité de Hong Kong, Lai Tung Kwok, jeudi, a affirmé que la coopération entre les deux pays dans ces domaines était une partie importante des relations entre les deux parties. Le communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères a informé vendredi que Hong Kong avait bien accepté la proposition de Mme Retno Marsudi pour établir la coopération plus étroite dans le domaine de l'immigration à travers la mise en place d'un protocole d'entente entre les organismes compétents. Actuellement, il y a environ 168 000 travailleurs indonésiens à Hong Kong et c'est la deuxième plus grande quantité après la main d'œuvre philippine. Dans une rencontre avec Lai Tung Kwok, la ministre Retno Marsudi a expliqué sur certains cas juridiques qui sont subis par des citoyens indonésiens liés à la mise en œuvre de l'information des systèmes de gestion de l'immigration. Répondant à cette question, Lai Tung Kwok a déclaré que les relations bilatérales solides devenait la capitale importante pour discuter plus détaillé cette question, afin de trouver la meilleure solution pour les deux parties. À cette réunion, les deux ministres ont convenu l'intensification de la coopération entre le consulat général de l'Indonésie à Hong Kong avec le bureau de l'immigration de Hong Kong à travers la mise en place de groupes de travail pour résoudre diverses questions rencontrées par les ressortissants indonésiens à Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré que l'opinion de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN sont toujours arrondies liées à la mer de Chine méridionale et il est prouvé par la déclaration étant présentée. L'ASEAN possède toujours la déclaration commune pour la question de la mer de Chine méridionale. S'il n'y a pas de l'unanimité, nous ne pouvons pas publier une déclaration à Suniland, Lao et Sotsi, a déclaré Armanata Nasir jeudi à Jakarta. Concernant les plaintes liées aux Philippines, à la Cour d'arbitrage international sur 9 littoraux entre les îles qui sont revendiquées par la Chine, Armanata a dit que l'Indonésie verrait jusqu'à ce que les résultats sortent. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie Kadin de l'Indonésie, chargé de la mer et de la pêche, M. Yogi Prayanto, a affirmé que l'industrie de l'huile de poisson à l'avenir était assez potentielle d'être développée. De plus, il y a une tendance de changement des habitudes de consommation des aliments transformés sains dans la communauté mondiale. Yogi Prayanto, comme cité de Republika, jeudi a ajouté que le gouvernement devait veiller au règlement à partir de la commodité de la banque et un approvisionnement suffisant en matières premières. Si le gouvernement a l'objectif de développer l'industrie de l'huile de poisson, le règlement doit être bien préparé afin que les produits indonésiens puissent être compétitifs avec d'autres pays. Le ministère indonésien des Affaires étrangères invite les entrepreneurs indonésiens, notamment ceux qui sont situés en dehors de Java, d'utiliser le groupe de travail de la diplomatie économique et des représentants indonésiens à l'étranger pour développer une entreprise et commercialiser des produits à l'étranger. Cela a été déclaré par le chef du groupe de travail de la diplomatie économique dans le domaine de l'investissement, Nur Syahrir Rahajo, jeudi à Jakarta. Jusqu'à présent, selon lui, il y a déjà 22 entreprises de Java West, Java East, Java Central et Jakarta qui demandent l'aide des représentants indonésiens à l'étranger de promouvoir ces produits à l'étranger. Il y a 132 représentants indonésiens à l'étranger qui peuvent être utilisés pour faire du marketing. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a expliqué que ce groupe de travail a été créé au début de 2015 pour répondre et soutenir la réalisation de la cible des paquets économiques nationaux qui ont été déterminés par le président Joko Widodo. En outre, il vise également à augmenter la valeur des exportations d'une valeur de 11%, augmenter les arrivées de touristes en Indonésie de 20 millions de personnes et d'accroître l'investissement de 15% jusqu'en 2019. Le ministère du Commerce, à travers le Centre de la promotion du commerce de Budapest, la Hongrie intensifie la promotion du commerce dans la région de l'Europe centrale et orientale par des annonces dans le tram ou des transports en commun. Le chef du Centre indonésien de la promotion du commerce, ou ITPC, à Budapest, dans un communiqué de presse jeudi, a espéré que, via l'annonce, le nom de l'Indonésie est non seulement de plus en plus connu, les produits indonésiens de plus en plus à venir à Budapest et l'Europe centrale et orientale. Selon Hikmat Riyadi, l'annonce est une campagne médiatique très efficace pour introduire l'Indonésie à l'Europe. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter la mosquée Ashuhada à Bali. Comme le pays avec la plus grande population musulmane, l'Indonésie serait la bonne destination pour le tourisme religieux, comme par exemple le village de Bugis, situé à Serangan, Bali. Ce village est l'un des quartiers musulmans dans la ville de Denpasar, Bali. Non seulement connu comme le centre de la culture islamique, mais aussi l'histoire sur l'entrée de l'islam à Serangan. La région qui a plus de 100 chefs de famille possède quelques sites historiques liés à l'entrée de la civilisation islamique au XVIIe siècle à l'île de Serangan, entre autres la mosquée Ashuhada, le Coran antique, l'ancien complexe funéraire et la maison traditionnelle de Bugis. Dans l'édition de magazine culturel cette fois, je vous invite à connaître plus sur l'un des sites de la civilisation islamique à Kampung Bugis, à savoir la mosquée Ashuhada. Cette mosquée est la plus ancienne mosquée à Serangan, construite sur l'idée de Sheikh Haji Momin. Selon des gens locaux, la construction de la mosquée est le cadeau du roi Badung à Sheikh Haji Mu'min qui a aidé avec succès de gagner la guerre à l'époque des guerres antiques. La superficie de la mosquée est 4 acres et face à l'est et entourée des murs. La mosquée Ashuhada est située dans le village de Bugis Serangan. Ce village est situé sur l'île de Serangan à environ 10 km au sud de Denpasar, capitale de la province de Bali. Pour atteindre Serangan, il faut traverser en utilisant un petit bateau. Cette mosquée est située au milieu des maisons de la population. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme magazine culturel intitulé La mosquée Ashuhada située à Bali. Merci de votre fidélité et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleurs et pour titre, l'Université Andalas fait safari Ramadan pour introduire l'éducation supérieure. Chers auditeurs, l'Université Andalas ou UNAN à Padang, Sumatra Ouest, profite de l'élan du mois Ramadan cette année en faisant le safari Ramadan ou la visite aux diverses régions au mois de Ramadan. Cette activité vise à introduire l'éducation supérieure aux gens parce que, selon le chef des relations publiques de cette université, Erianti, ce ne sont pas tous les gens qui connaissent l'enseignement supérieur. Safari Ramadan mené par la direction de l'université, à cet égard le recteur UNAN comme étape d'exposer l'enseignement supérieur à l'université. Erianti a ajouté pour le recteur d'UNAN l'occasion donnée par le gouvernement provincial pour faire Safari Ramadan ou la visite aux diverses régions au mois de Ramadan est utilisée comme une arène pour approcher l'enseignement supérieur à la communauté. Dans quelques visites comme à Pariaman, Sawah Lunto et Darmasraya, le public peut interagir directement avec le leadership d'UNAN pour demander les tenants et les aboutissants de l'université et de l'enseignement supérieur. Par l'intermédiaire de l'interaction et la brève présentation, au moins, il peut ouvrir l'opinion des gens sur le campus et l'importance de l'enseignement supérieur. On espère qu'à l'avenir, l'orientation de la population, en particulier ceux qui vivent dans des régions éloignées, conduira à l'université. Chers auditeurs, lors de Safari Ramadan avec le gouvernement provincial de Sumatra Ouest, à la préfecture d'Armasraya, précisément à la mosquée Al-Wasilah Jorong Sililok Nagari Sikabau, le district Pulau Punju, le recteur de l'Université Andalas a affirmé « Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de fils et filles de Darmasraya qui se sont intéressés au campus 3 de l'Université Andalas à Darmasraya. » Tafdil a expliqué également que l'infrastructure, les installations, les professeurs et d'autres installations au campus 3 étaient similaires que le campus Limau Manis et le campus 2 Payakumbu. À cette fin, il fait appel à toutes les communautés et les autorités locales de progresser ensemble le campus Darmasraya 3 pour l'avantage des gens de la préfecture de Darmasraya à l'avenir. Répondant à Safari Ramadan mené par le recteur de l'Université Andalas, un étudiant de cette université, Amalia, apprécie l'implication d'UNAN à faire le Safari Ramadan. À l'avenir, Amalia espère que les étudiants peuvent également être impliqués dans ses activités. Selon Amalia, les étudiants peuvent aider à répandre la vision d'Unan jusqu'à régions éloignées. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition vendredi. Comme chaque vendredi, on vous présente la chanson de rythme de dangdut. Celui-ci est le mix entre la musique indienne, l'arabe et l'ethnique de l'Indonésie. Pour ce soir, on vous présente la chanteuse Siti Badriah. Donc, pour mieux connaître sur la chanson de rythme de dangdut, écoutez donc la chanson chantée par Siti Badriah intitulée Terong Dicabein. Bonne écoute.
Gampang kamu memang manis.
Chers amis, en 2014, le monde musical Indonésie est animé par la nouvelle chanteuse dont sa présence a fait attirer le public. Elle est Siti Badriah. Grâce à la chanson Barabere, le nom de Siti Badriah connaît de plus en plus par le public en Indonésie. Cette chanson est très belle pour elle et aussi est entendue. Et vous savez, Siti Badriah a besoin beaucoup de temps pour publier son album et ses chansons. Surtout son album Satu Sama. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez encore écouter la chanson de Siti Badriah intitulée La chanson qui fait célèbre le nom de Siti Badriah. Bonne écoute.
Apakah aku telah melanggar hukum?
Chers fidèles amis, Siti Badria est née au 11 novembre 1991. Elle choisit le genre musical de Dangdut car elle peut montrer son talent. En effet, tout est vrai. Grâce au genre Dangdut, elle est si populaire. Et plus tard, en 2015, elle a lancé le nouvel album avec la piste de Suamiku Kawin Lagi. Et on dit que Siti Badria va être sérieuse d'être chanteuse au rythme de Dangdut. Pour cela, elle se concentre toujours à cette musique. Chers amis, c'était la musique et le magazine de Dangdut avec la chanteuse Siti Badria. Merci de votre fidélité et attention. Mais avant de terminer, écoutez d'abord deux dernières chansons de Siti Badria intitulées Tobat Maksiat et Mama Minta Pulsa. Bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.